Vous écoutez France Culture.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Nous sommes le mardi 3 juin. Dans un instant, on retrouve Benoît Peeters pour sa série consacrée à Paul Valéry, relire Valéry. Et puis en deuxième partie, je serai avec le comédien Manuel Blanc. On va parler de tout sauf de cinéma puisqu'il sort aujourd'hui son premier roman, Carnaval. Donc on parlera de littérature. Relire Valéry avec Benoît Peeters. Aujourd'hui, deuxième épisode, Monsieur Test et la tentation romanesque. On a parlé hier du Valéry poète, mais il y a un autre Valéry. Un Valéry qui va prendre sa poésie avec lui pour explorer d'autres territoires littéraires.
Dans sa jeunesse, Valéry tourne très tôt le dos à la poésie au sens littéral, mais il ne tourne pas tout de suite le dos à la littérature. Et il va, à peu près à l'âge de 25 ans, publier deux textes majeurs, un qui est plutôt un essai, l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, et un autre qui, effectivement, correspond à l'idée d'une tentation romanesque, quoique ce soit un texte qui a plutôt la dimension d'une nouvelle. Ce texte est un des plus célèbres de Paul Valéry, c'est « La soirée avec Monsieur Test ». C'est un texte tout à fait extraordinaire, d'abord par sa densité. En une quinzaine de pages, il y a véritablement un mythe qui se constitue. On peut dire que le personnage de Monsieur Test existe au-delà de Paul Valéry. D'ailleurs, plus tard, Valéry le prolongera par un certain nombre de textes. Et aujourd'hui, le volume qu'on appelle Monsieur Test contient tout un ensemble de choses qui tournent autour de cela. Mais on pourrait voir aussi, dans l'histoire de Monsieur Test, qui est un peu un prolongement de ses contes d'Edgar Poe, que Valéry admirait tellement, on pourrait aussi y voir une sorte d'annonce des fictions de Borges. Et Borges était un grand admirateur de Paul Valéry. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une annonce de Borges? Eh bien, parce qu'il y a une façon de feindre le roman. Souvent, on a fait de Valéry, et Breton le premier, on a fait de Valéry l'ennemi du roman. Il serait l'auteur de cette phrase célèbre « Je ne l'écrirai jamais, la marquise sortit à 5 heures ». Et parfois, on réduit un petit peu l'idée valérienne du roman à cette formule brillante, mais peut-être insuffisante. En réalité, ce qui ennuie Valéry dans le roman, ce sont tous ces développements un peu arbitraires, toutes ces pages qui pourrait ne pas être là, tout ce qui crée des effets de réel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vitesse, c'est la concentration. Et par cette concentration, il arrive, avec Monsieur Test, en quelques pages, à camper un personnage. Alors c'est une nouvelle qui commence par une formule restée très célèbre, « La bêtise n'est pas mon fort », mais « La bêtise n'est pas mon fort » n'est pas une phrase de Monsieur Test, mais du narrateur. Un homme qui ressemble un peu à Valéry, un jeune homme un peu isolé du monde, absorbé par des recherches intellectuelles et qui observe à différentes reprises un personnage plus âgé que lui, un homme d'environ 45 ans, qui semble s'être comme absenté du monde. Il est entièrement tourné vers l'intérieur de sa tête, entièrement absorbé dans sa propre pensée et indifférent à ce qu'on pourrait penser de lui. Il ne se soucie absolument plus de produire des résultats, de faire connaître ses idées, de convaincre qui que ce soit. Il ne se soucie absolument pas de publier. C'est au fond un portrait anticipé de la légende valérienne, hein, de ce que Valéry va devenir pendant les années où il ne publie pas, pendant les années de silence. Et donc, ce Monsieur Test qui dit « J'ai tué en moi la marionnette » est le personnage d'une comédie de l'esprit qui fascine totalement le narrateur et en fascinera bien d'autres. Et il y aura d'ailleurs un piège de la soirée avec Monsieur Test. C'est que beaucoup de gens, quand ils vont rencontrer Paul Valéry, oubliant qu'il est le narrateur de la nouvelle et non pas son personnage principal, vont au fond le juger comme s'il était Monsieur Test, comme s'il devait être Monsieur Test, comme s'il devait être indifférent à l'écume des jours et des choses, comme s'il devait être ce personnage purement intellectuel. Et quand ils vont voir Valérie plaisanter, quand ils vont voir Valérie publier beaucoup, quand ils vont voir Valérie mondain, ils vont crier à la trahison. Or, évidemment, cette figure que Valérie anime si brillamment, comment dire, c'est une tentation de l'esprit, mais ce n'est pas du tout une identification. La soirée avec Monsieur Test reste une merveilleuse nouvelle, un merveilleux récit, et probablement une des plus belles portes d'entrée dans l'œuvre de Paul Valéry. C'est certainement un des textes les plus accessibles, même à de jeunes lecteurs, parce qu'il y a une intensité. Roland Barthes disait à propos de Monsieur Test que c'était comme un texte sur l'addiction. C'est l'addiction, c'est la folie de la conscience.
Mais est-ce qu'on peut dire que Paul Valéry lisait beaucoup ses contemporains? Vous avez, vous écrivez, Benoît Peters, dans le livre, que pas du tout. Il n'était pas du tout intéressé par ce qui s'écrivait à l'époque.
Ce qui est assez curieux, c'est qu'il est ami avec des littérateurs qui publient beaucoup, à commencer par André Gide et Pierre Louis, deux de ses proches amis, et on a l'impression qu'il les lit de façon un petit peu distraite. Le roman, somme toute, a du mal à l'intéresser. Parfois, il en lit. Il aime Balzac, en fait, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Il aimera davantage encore, et pour son style, Stendhal ou Rétif de la Bretonne. Mais disons que le roman n'est pas son genre. Ça, c'est certain. Et pourtant, l'expression de tentation romanesque que vous avez employée me semble très juste. Il y aura une continuité narrative à travers toute son œuvre. D'abord à travers certains textes qui sont des portraits. On reparlera sûrement de Degas dans ce dessin, mais Degas dans ce dessin qui est un portrait d'Edgar Degas. On est au bord du roman. Aujourd'hui, ça serait du Jean Echenoz, enfin, je veux dire, comme façon de camper un personnage, d'être au bord de la biographie romancée. Mais il y a aussi beaucoup d'amorces romanesques dans les cahiers que tient Valéry dans Le Secret, dans un certain nombre d'autres proses, on voit Valéry entamer un récit et puis le laisser tomber, comme si l'impulsion initiale était plus forte pour lui. Alors, ça crée une œuvre très étrange, puisque dans les œuvres du XXe siècle, la plupart ont comme centre du roman. Chez Gide, c'est Les Faux-Monnayeurs ou Palud. Chez Proust, bien évidemment, c'est le monument de la recherche du temps perdu. Mais même la plupart des œuvres importantes que nous connaissons, on peut les associer à un ou plusieurs romans. Chez Valéry, l'œuvre va être très dispersée et le roman reste là comme en creux. Peut-être que le héros principal de roman, c'est Valéry lui-même, tel qu'on peut le reconstituer à travers ses notes intimes et sa correspondance. Mais pourtant, c'est une idée qu'il a considérée. Et à un moment où il se souciait de gagner sa vie, parce que la littérature était devenue son métier et qu'elle le faisait difficilement vivre, Gaston Gallimard, encore jeune éditeur, a cette formule extraordinaire. Il écrit à Valéry « Faites-moi un roman sensuel et cérébral et je vous couvrirai d'or ». Et Valéry ne dédaigne pas tout à fait la proposition, il y réfléchit. Il y réfléchit parce que, bon, après tout, la sensualité et la cérébralité sont deux choses qu'il connaît bien. Il prend des notes pour le roman, mais assez vite, il se décourage et préfère finalement laisser des petits contes qui ont été repris après sa mort dans un volume qui s'appelle « Histoire brisée ». Et ça nous dit un peu tout de Valéry, romancier. Mais c'est quelqu'un qui raconte très bien. Et on le retrouve dans ses lettres, on le retrouve même dans ses textes théoriques, avec un usage du « je » assez étonnant. Quand il parle de Descartes, par exemple, on a l'impression vraiment de voir vivre Descartes. Quand il nous évoque Mallarmé, auquel il consacrera un grand ensemble de textes, et dont il sera vraiment un de ceux qui va révéler Mallarmé à un nouveau public, on sent vivre véritablement Mallarmé comme sous la plume d'un romancier. Et certains des portraits qu'il laisse avec une description très physique des personnes qu'il a côtoyées sont véritablement de très belles pages de romancier.
Reste la question, est-ce un choix de se tenir à bonne distance de la littérature telle qu'elle se pratiquait à l'époque par les romanciers déjà installés et que Valéry fréquentait? Est-ce un choix ou est-ce une impuissance finalement?
Je crois quand même que c'est un choix. Il ne se voulait pas littérateur. Il était entouré de gens de lettres, les observait avec un mélange d'amitié et d'étonnement, ne comprenait pas que l'on puisse consacrer sa vie à faire des livres. Il y a un échange célèbre entre André Gide et Paul Valéry où Gide lui dit « tout jeune, comme ça. Moi, si on m'empêchait d'écrire, je me tuerais. Et Valérie lui répond tout de go, eh bien moi, si on m'obligeait à écrire, je me tuerais. Il y a l'idée chez Valérie que penser pour soi, sans souci de publication, poursuivre une recherche, c'est beaucoup plus important que la littérature. Il y a un rêve philosophique ou un rêve scientifique chez Valéry, qui va se briser à un certain moment dans sa vie. Mais pendant longtemps, il a l'impression qu'il va découvrir le fonctionnement de l'esprit, les règles du fonctionnement de l'esprit, les mécanismes de l'imagination et de la conscience, qu'il va comprendre le phénomène du rêve. Et ces choses-là lui importent beaucoup plus que l'idée d'écrire tel ou tel joli petit volume, etc.
Sans oublier l'amour, l'amour, toujours l'amour.
Ah ben l'amour, c'est une affaire très compliquée chez Valéry, parce que l'amour en tant que passion qui le brûle pendant sa prime jeunesse, c'est quelque chose qu'il va rejeter pendant très longtemps. Il va faire un mariage bourgeois, être un père de famille parfait, un mari dévoué, une épouse souvent malade pendant beaucoup d'années. Et au moment où il se remet à publier, et à l'approche de la cinquantaine, il va rencontrer l'amour-passion. Et toute la dernière partie de la vie de Valéry, donc à peu près entre 50 ans et sa mort à 73 ans, va être une succession de passions amoureuses de plus en plus violentes, de plus en plus intenses, comme s'il y avait là un effet d'extraordinaire retour du refoulé. C'est-à-dire qu'il a voulu construire une cuirasse pour se protéger contre une sensibilité trop vive. On a vu en lui quelquefois un homme froid et sévère, mais en réalité c'est un être brûlant, mais simplement qui a peur de ce qui brûle. Et effectivement, il avait peut-être raison d'avoir peur, parce que ses amours seront pour la plupart des amours très tragiques. Bon, il y a la grande histoire d'amour qui est un roman à elle seule, avec Catherine Pozzi. Catherine Pozzi, une femme remarquable qu'il va rencontrer, qui est une mystique, une femme très très douée, mais en même temps leur relation est absolument impossible. Ils ne cessent de s'affronter, et ça ira jusqu'à la haine. Et puis d'autres histoires qui suivront dans les années 30 et 40, et qui ne seront pas très heureuses. Mais Valéry cherche-t-il à ce moment-là le bonheur, ou veut-il à nouveau brûler, y compris pour l'impossible? Ça, c'est une question à laquelle j'essaie de répondre, parce que j'essaye aussi, dans mon livre, de le comprendre lui, de comprendre cette drôle de trajectoire d'un homme qui avait tous les dons, qui peut-être n'en a pas tiré tout le parti possible, mais qui a fait autre chose, qui a développé une trajectoire d'une singularité extraordinaire, et que moi je trouve très attachante, et par certains côtés très contemporaine, parce que être du côté du fragment, être du côté du possible, être du côté des devenirs pas tout à fait réalisés, je pense que pour nous aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, ce sont des dimensions qui nous touchent peut-être plus que le Valéry poète installé et néoclassique.
Demain, on verra comment Valéry va développer aussi sa propre philosophie dans le cadre de cette série consacrée à Paul Valéry, relire Valéry en compagnie de Benoît Peeters, auteur d'un livre qui vient d'être édité par Flammarion, Valéry, tenter de vivre. À demain, Benoît Peeters.
À demain.
Cap au vent, j'arpente les rues de la ville. Des groupes éparpillés errent, gueulent dans la nuit. Une boule noire me serre la poitrine, monte jusqu'à ma gorge. Les étreintes de la nuit ne sont pas parvenues à meubler le vide que tu as fabriqué. Je me mets à courir contre le vent glacé. Le froid qui fouette fige la douleur, chasse l'angoisse. Sous l'habit, mes os d'oiseaux ne tiennent plus le squelette. Ma peau d'homme a beau être élastique, elle n'en peut plus d'être distendue. Je me divise en deux chauves-souris de sexe opposé qui volent côte à côte. Un sexe alternatif, c'est cela qu'il me faudrait. Un coup mâle, un coup femelle. En ai-je vraiment envie? Il est 4 heures du matin, l'heure d'aller rendre une visite surprise au photographe, récupérer les images, effacer les traces de mes métamorphoses, puis rentrer chez moi. Mon GPS m'indique que je suis à 2 rues de son immeuble, j'accélère pour arriver avant le lever du jour. Un grand vide succède à la douleur, me domine. Ma lucidité de chauve-souris censée voir au plus profond de la nuit n'y peut rien. Anéanti sur le pavé, je ramène mes genoux contre ma poitrine, sors mon téléphone pour t'appeler. Compose un texto que j'aurais écrit plusieurs fois, ne parvenant pas à me décider à te l'envoyer. Le texto me revient. À côté de ton nom, un point d'exclamation svelte et rouge qui signifie « échec de l'envoi ». Même réponse après la deuxième tentative. Échec. Je compose ton numéro, une voix allemande m'apprend qu'il n'existe pas. Tu n'es plus joignable désormais.
Si vous avez reconnu Manuel Blanc, vous êtes vraiment fort. Bonjour Manuel Blanc.
Bonjour.
Comédien, primé dès votre début au cinéma avec Jean Braspa d'André Téchiné, vous avez eu 1000 vies au cinéma, au théâtre, à la télévision, avant d'en inventer une nouvelle dans la littérature, Carnaval, votre premier roman paraît chez Hugo et compagnie. Alors, c'est l'histoire d'un comédien dans la quarantaine, mais qui en paraît moins, ce qui n'arrange pas toujours d'ailleurs ses affaires pour décrocher des rôles. Et oui, ça marche aussi dans ce sens. Un comédien donc se lance à la recherche de son amant. Drôle de filature amoureuse où le protagoniste avance masqué dans tous les sens du terme. Le narrateur, pour les besoins d'un film, est déguisé en gorille ou en Batman. Et dehors, dans la ville, c'est le carnaval. Réalité déguisée, comme au théâtre, comme dans un roman contemporain. Sauf qu'ici, l'autofiction que vous utilisez, eh ben, ce n'est pas seulement un genre emprunté, mais le cœur même de l'intrigue, puisque cette quête amoureuse devient aussi une initiation littéraire.
Oui, c'est ma première... J'avais écrit un texte avant Carnaval qui n'a pas été édité. Et celui-là, c'est mon premier roman édité. C'est une initiation. J'avais envie, à travers l'écriture, de m'éloigner le plus possible du métier de comédien. J'aurais pu écrire un scénario, tout s'y prêtait. J'avais envie du roman, vraiment de m'éloigner de
ce à quoi. Et pourquoi cette envie ? Pour être seul avec vous-même ?
De libérer une voix, mais en fait la boucle est bouclée. Quand j'ai commencé à être comédien, j'avais 21 ans, enfin je savais que je voulais faire ça depuis que j'avais 13 ans, mais j'écrivais des histoires, j'avais gagné un concours d'écriture par le biais du ministère de la Culture, c'était un concours de scénario de court-métrage que j'avais élaboré, coaché par ma prof de philo, et puis finalement ma producteur était censé mener à terme ce projet, et puis ça s'était jamais fait, mais moi j'étais trop en retrait à ce moment-là pour imposer, pour essayer d'aller de l'avant. Et je me suis dit, je me souviens de cette image, j'ai fermé les portes de l'écriture à un moment donné, comme on ferme les portes d'un placard de cuisine ou d'une pièce, sans me dire spécialement que je réouvrirais ces portes plus tard. Et elles se sont rouvertes il y a 3-4 ans, après un tournage qui était somme toute assez rocambolesque, un tournage en 15 jours qui était un peu surréaliste et pas abouti du tout, quoi. Et voilà, et ça, c'est tout d'un coup, ça s'est déclenché. Je le nommerai pas, mais c'était un tournage assez surréaliste, quoi. Donc, mais voilà, en même temps, j'avais pas d'amertume par rapport à ça. Moi, quand je m'engage comme comédien dans une aventure, je le regrette jamais, quel que soit le résultat, que le film soit bon, moins bon, ou qu'il ne réponde pas à mes attentes.
Et quand je dis que Carnaval, c'est de l'autofiction, ou du moins, l'autofiction est présentée comme quelque chose d'évident, parce qu'on vous connaît en tant que comédien,
bah oui.
Vous aurez pu être à la place du narrateur. Vous avez joué avec ce genre littéraire, mmh. Où c'est encore un autre masque pour avancer dans ce terrain vierge qu'est la littérature.
Complètement, c'est cette question d'autofiction. Le mot me fait toujours un peu peur, j'ai toujours un peu de gêne avec ce mot-là, puisque j'ai l'impression qu'on parle toujours de soi, mais quelle que soit la forme, quel que soit le genre... c'est le mot d'autofiction qui me gêne. Maintenant, j'ai choisi exprès, effectivement, exprès un héros, un personnage central
qui
joue justement pour être sur ce fil-là, sur ce fil pour m'aider peut-être à tomber les masques. Parce que je ne fais pas l'économie d'une certaine aussi pudeur à m'aventurer comme ça sur le terrain littéraire, à m'approprier cette parole. Il y a certainement aussi une forme de pudeur à tomber les masques. Et je joue avec ça dans Carnaval, c'est assez... Voilà.
Oui, c'est une comédie d'ailleurs,
et puis
masquée.
C'est une comédie masquée, et enfin, c'est ludique, et ce décor, le carnaval, une ville en plein carnaval, pour quelqu'un qui vient de... Voilà, qui cherche un amour disparu, en l'occurrence là son amant. Moi, comédien, c'est vrai que connaissant très très bien ce processus du costume, du déguisement, le masque, à quel point le masque cache ou libère, pour un acteur, quand on a répété 2 mois une pièce, quand on se retrouve tout d'un coup à 3 semaines à une semaine des représentations, le costume arrive souvent tard dans les répétitions. Et quand on l'enfile, il y a quelque chose de magique qui se passe. Tout d'un coup, le personnage est là, on ne voit plus le travail. Et voilà, il y a quelque chose de magique qui opère. Et moi, je voulais, sur cette question des sentiments... Dans Carnaval, cette façon d'entrer en rapport avec ça, avec l'écriture, pour moi, je pense que j'ai encore de la pudeur, sur certaines choses.
D'où ce joli paradoxe, parce que généralement, quand on porte un masque au cinéma, quand on est déguisé, quand on enfile un costume, c'est pour s'oublier soi-même et endosser un rôle. Alors que là, il y a beaucoup de masques. Le narrateur n'arrête pas de passer d'une tenue à une autre, mais c'est pour se rapprocher le plus possible de sa vérité, ou du moins, c'est comme ça qu'on peut le lire, mais peut-être que c'est une lecture libre de votre premier roman, Carnaval, Manuel Blanc.
Non, c'est ça. Les costumes, en fait, qu'il revêt, que ce soit un costume d'animal, comme un costume de gorille, ou un costume de super-héros, Batman. Pour ne pas le nommer, Batman, voilà. C'est comme des peaux, cette image des costumes, en fait, qu'on... Dans l'idée de tomber les masses, un costume, c'est comme une peau pour un acteur. C'est une peau qui permet d'être plus que soi, de se libérer. Et les différents costumes que le personnage revêt dans Carnaval, en fait, sont comme des peaux successives qui lui permettent d'aller un peu plus loin, de tomber un petit peu, de se rapprocher un peu plus de sa vérité, comme vous dites, et de ce pourquoi il est là, dans cette ville, à errer comme ça, après quelqu'un, parce que finalement, cette traque amoureuse, il est là, il est dans une ville, il cherche quelqu'un à qui il tient, qui a disparu, et en même temps, il a envie de le retrouver, et pas envie de le retrouver. La vraie raison, c'est de se chercher soi aussi, c'est une quête presque plus identitaire qu'une quête amoureuse.
Qui vous a donné envie de rendre public ce texte? De partager cette expérience?
C'est un désir d'écriture. En fait, comme j'avais écrit un premier texte avant Carnaval, qui n'a pas été édité, mais que j'ai envoyé aux éditeurs, j'étais encouragé par quelques amis écrivains qui me disaient « Oui, vas-y ». Et en fait, il n'a pas été édité, mais j'ai eu des retours assez encourageants. Et quand j'ai eu ces retours, je me suis tout de suite lancé dans une autre aventure d'écriture, quoi. J'avais envie de... vraiment un besoin d'écrire. Et c'est vrai que je pense que pour moi, ça a été une chance de ne pas être édité tout de suite sur ce premier texte, je pense, parce que ça a vraiment questionné mon désir par rapport à l'écriture.
Pourquoi ? Que raconter ce premier texte, du coup ? Le texte...
Le premier texte, c'était une... je comprends que ça a pu faire peur à des éditeurs. C'était peut-être un peu très ambitieux pour moi. Pour un premier texte, c'était un sujet, une personne divisée en quatre voix d'une même personne. Toujours avec cette question du double, il y avait beaucoup de dialogues. Et bref, pour moi, ça me semblait très clair, ces quatre voix, passer de l'une à l'autre dans le récit. Mais ça l'était moins pour le lecteur, je pense.
Diriez-vous, Manuel Blanc, que vous êtes très marqué par tous ces scénarios que vous avez dû lire durant votre carrière, tous ces classiques que vous avez dû jouer au théâtre, oui.
Bien sûr, oui. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au début, dans l'écriture, à un moment donné, je me disais, j'avais l'impression de lutter. Je me suis dit, mon bagage à moi, je suis acteur, j'ai lu des scénarios, et par rapport au roman, dans les scénarios, il y a une espèce de logique, en tout cas dans les scénarios qu'on lit la plupart du temps, une logique de l'action, une logique... le cinéma obéit à des contraintes. Et moi, j'avais l'impression, je me disais, mais merde, j'ai l'impression d'avancer, de me traîner ce background un peu d'écriture scénaristique. Et je sentais qu'il fallait que je me libère de ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais de toute façon, je fais avec ce que je suis. Et je viens aussi de là, de l'image. Donc j'ai dépassé ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est une question, parce que le roman, c'est pas ça. Le roman, ça n'a rien à voir avec l'écriture d'un scénario.
Alors, quels sont les romans qui vous ont accompagné ces dernières années? Je suppose que, parallèlement à votre métier de comédien, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision, Manuel Blanc, il y avait aussi des moments consacrés à la solitude, à la littérature.
À la littérature, oui, il y en a plein. J'ai énormément de mal à fixer dans ma mémoire, à citer des exemples. Sur l'écriture, il y a le texte « Écrire » de Duras qui me parle beaucoup. J'aime entendre parler du processus, en fait, que ce soit en peinture, que ce soit en littérature. Ça m'inspire énormément. Il y a un personnage de photographe dans Carnaval.
Très énigmatique, très intéressant.
Et je me suis inspiré. J'ai été voir une expo à Beaubourg. C'était Richter. Et Richter a écrit des journaux où il parle de la photo, et ça m'a beaucoup beaucoup inspiré, son rapport à la photographie, la peinture, je m'en suis beaucoup servi. Après, en littérature, il y a plein d'auteurs, je ne saurais pas les citer comme ça.
Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose qui était là depuis toujours, la littérature, la fiction, les livres, ou un peu comme votre carrière, Manuel Blanc, c'est quelque chose que vous avez construit à l'ombre de quelques, peut-être, quelques amis, quelques metteurs en scène, quelques personnes qui vous entouraient.
Non, je pense que c'est un, raconter des histoires, c'est un désir qui est très ancien, qui est ancré depuis le début, qui a ses racines à peu près au même moment où j'ai senti que je voulais être comédien, ou jouer, raconter des histoires.
Mais raconter des histoires, c'est une envie qui est venue avec les romans, avec les films, la bande dessinée.
C'est une envie de jouer, de faire jouer, de se chercher, de se questionner, de raconter des histoires, là, avec les mots. En libérant ma parole à moi. Mais quand j'étais à la Rue Blanche, il y a une vingtaine d'années, j'avais envie de faire jouer mes camarades comédiens. J'écrivais comme ça, mais c'était de l'écriture un peu automatique. Mais j'avais cette envie de raconter une histoire. Mais jouer, finalement, jouer, écrire. Jouer, c'est aussi raconter une histoire. L'acteur est véhicule, on véhicule les mots des autres. Mais dans notre respiration, chaque acteur écrit aussi une histoire avec son corps, son souffle. Derrière les mots, il interprète et il donne une lecture qui est la sienne, qui est unique, qui raconte quelque chose. Il se raconte aussi en interprétant. Voilà, je fais un peu un parallèle entre le jeu et l'écriture parce que il y a un truc qui m'a troublé l'année dernière, c'est que j'avais passé plusieurs mois à écrire et je me suis retrouvé sur un tournage, je me suis dit « Oh là là, ça va être terrible ». Je vais avoir le trac, je vais plus fonctionner, je vais être comme une vieille voiture qui a passé tout l'hiver au fond du jardin, le moteur va tousser. Et en fait, il y a eu comme quelque chose d'évident. Ça a été simple, ça a été très fluide, très très simple. Et je me suis dit, l'écriture, j'avais cette peur au début que ça me coupe aussi de mon métier d'acteur, mais non, en fait, l'écriture aiguise la curiosité. Et le moteur, la chose essentielle pour un comédien, c'est de rester éveillé, curieux du monde, des autres. Et voilà, c'est le parallèle que je fais avec l'écriture.
Et vous êtes aussi anxieux qu'à la sortie d'un film, par exemple, Manuel Blanc, maintenant que vous sortez ce premier roman, quoique l'enjeu doit être de taille, je suppose.
Oui, je dirais que c'est pas de l'anxiété. Le livre est là et je me dis, quand je l'ai vu il y a à peine deux semaines, je me suis dit, quand j'ai vu l'objet, livre, j'ai compris. Et je me suis dit, il y a peut-être du trac à en parler, là, même avec vous pour la première fois. C'est vrai que c'est pas une position à laquelle j'ai l'habitude d'être, mais c'est ça qui m'intéresse, comme acteur aussi. C'est prendre des risques, c'est sortir des sentiers dont j'ai l'habitude, connu. C'est de m'aventurer, donc voilà, c'est ça qui me stimule avant tout.
Surtout, continuez à écrire. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Manuel Blanc. Je vous rappelle que Carnaval est édité chez Hugo et compagnie. Merci d'être passé.
Merci à vous.
Vous pouvez réécouter cet entretien en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page de l'émission. Un autre jour est possible. On se retrouve demain. Bonne journée sur France Culture.